Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne, la revue de presse comme chaque matin sur Twitch. On passe en vue toute l'actualité et on voulait partager avec vous, avec les amis de Twitch, cette une de l'humanité sur la hausse des prix du carburant et les mesures éventuelles que pourrait, selon l'humanité, prendre l'État français pour limiter cette baisse pour les Français. Je pense que pour ceux qui font des plaintes en ce moment, vous vous en êtes rendu compte. Il y a un gros dossier dans l'UMA ce matin qui est très carré, qui pose cette question. Qu'est-ce que l'État français peut faire et devrait faire pour aider les Français confrontés à cette hausse du prix des carburants. Donc c'est la une de l'UMA. Le cornu bloque sur les prix. Pourquoi ? Parce que le journal nous explique que le Premier ministre refuse de s'attaquer à la flambée de la facture à la pompe, alors que de nombreux salariés sont pris à la gorge. La gauche, elle, appelle à plafonner les tarifs. Depuis quelques jours, je vous dis, les caisses de l'État sont vides. La dette est gigantesque, la charge de la dette, les intérêts qu'on doit payer pour notre endettement explosent, et en plus les taux d'intérêt remontent, voilà, et l'État ne cesse de dire que les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. En cas de crise économique, ce serait très compliqué de soutenir la population française du fait de cette situation financière alors que le déficit a explosé. En tout cas, ça c'est la réponse du gouvernement. Lisons maintenant le dossier de l'UMA qui, vous allez le voir, lui appelle au contraire à des mesures ciblées pour une partie de la population. Carburant, le cornu joue la montre au détriment des salariés, estime l'UMA. Le gouvernement traîne à présenter de nouvelles mesures d'aide ciblées, peut-être en attendant que éventuellement la guerre s'arrête, hein, que les prix s'apaisent. Alors que de nombreux travailleurs laissés sur le bord de la route sont pris à la gorge par la hausse des tarifs à la pompe, la gauche l'exhorte pourtant à mettre en place un blocage des prix. On va se pencher justement sur les différentes mesures, c'est là où le dossier de l'UMA est intéressant, que pourrait prendre le gouvernement éventuellement. Face à la fièvre sociale qui grimpe aussi vite que les prix à la pompe, le gouvernement donne le sentiment de naviguer à vue. L'exécutif, bah à mon avis, il navigue pas à vue, il joue le temps en espérant que la guerre s'arrête. L'exécutif devait pourtant annoncer une nouvelle salve de mesures d'aide aux professions les plus concernées par la flambée des carburants, mais lundi, il n'y avait toujours rien dans les tuyaux. Depuis le début de l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, le gouvernement fait le pari d'un conflit court, c'est ce que je vous disais, qui ne l'obligera pas à mettre la main au porte-monnaie ou à prendre des mesures drastique. Le spectre du choc pétrolier de 73 qui avait plongé les économies occidentales dans une interminable crise économique, la plupart d'entre vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça, plane dans les esprits, d'autant que c'est l'exécutif lui-même qui en a réactivé le souvenir par l'intermédiaire du ministre de l'économie, qui a un petit peu gaffé, estime certains, en disant « c'est un choc pétrolier », lâchait Roland Lescure à l'Assemblée le 24 mars. L'hypothèse d'une crise passagère n'est malheureusement plus d'actualité. Tollé général, rétro-pédalage dès le lendemain, certains ont dû l'accuser de foutre le feu au lac et d'inquiéter les Français, et il a déclaré « je regrette d'avoir utilisé ce terme, il s'appliquait dans mes mots à la situation internationale, en aucun cas à la situation française ». Au-delà de ce revirement qui accentue l'impression d'un flottement, Roland Lescure avait-il raison ? Donc pour Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, trois conditions doivent être réunies pour qu'on puisse parler d'un choc pétrolier. 1. Hausse des prix forte et brutale, bon ça c'est ok, et qui dure dans le temps. A priori, sur les deux premiers points, on y est, explique-t-il. Le 27 février, on a un baril de pétrole qui est à 73$. Le 9 mars, on passait les 100$. On navigue depuis entre 110 et 115. En revanche, la durée, on n'y est pas encore. Pas les macarons, mais la durée de cette crise. Reste à savoir combien de temps les prix vont rester à ce niveau. Aujourd'hui, le détroit d'Hormuz, par lequel transite, vous le savez, 20% de la consommation mondiale de pétrole, 20% des exportations de gaz naturel liquéfié est toujours bloqué. Il y a quelques navires qui passent selon le bon vouloir de l'Iran. Cependant, même si la guerre s'arrêtait demain, ce qui semble improbable, et que le détroit était à nouveau navigable, il y a fort à parier que les dégâts provoqués pendant le conflit continueront à produire des effets durant des mois. Donc même si des tankers et des méthaniers recommencent à circuler dans le détroit, il faudra du temps pour réparer les installations énergétiques endommagées par les frappes, notamment dans les pays du Golfe, vous le savez. Ça va pas repartir comme ça, quoi. Pff, ça pique ça. Hop, 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 hop. À Toulouse, le 3 avril, on a un litre de gazole à 2,41€. Ah, de suprême gazole. Et de gazole à 2,33€. 2,36€, me dit Roi de Lèche en temps pour lui. Bah, j'en ai à 2,33€, là, si tu veux. J'ai vu du 2,45 hier, me dit le comptable. 2,89€. Quelqu'un qui me dit dans le chat, 2,89€ à côté de chez moi. Alors, vous le disiez à l'instant, et vous êtes très fort et vous avez raison, même si le parallèle avec le choc pétrolier de 73 a peu de sens, puisqu'à l'époque, les prix du baril avaient été multipliés par 4 et les économies occidentales étaient beaucoup plus dépendantes du pétrole qu'aujourd'hui, les prévisionnistes parient néanmoins sur des effets d'ampleur. C'est effectivement pas des chocs pétroliers aussi violents que ceux qu'on a déjà connus dans le passé lointain, mais l'économie va quand même être impacté. Pour l'INSEE, la flambée des prix pourrait se traduire en France par un regain d'inflation qui franchirait les 2% au printemps, avec des conséquences sur le porte-monnaie. De nombreux salariés tirent déjà la langue depuis les agriculteurs, hein, pour les tracteurs, vous savez, notamment, toutes les machines Il y a du carburant, bien sûr. Les aides à domicile, il y a un très beaucoup de projecteurs sur les aides à domicile dans l'humanité que je vous lirai tout à l'heure. En passant par les routiers, évidemment. Tout à l'heure, on a été raid par un ami routier. Ou les marins pêcheurs. Le gouvernement voit donc monter avec angoisse la colère populaire. Le souvenir traumatique du mouvement des Gilets jaunes reste dans les mémoires, mais se bande pour l'heure à des mesures circonscrites. Il y a eu des mesures, indemnité carburant pour les pêcheurs, aide sur le gazole non routier pour les agriculteurs, aide forfaitaire aux transporteurs routiers. Bout à bout, ces dispositifs représentent 130 millions d'euros selon des données rendues publiques le 3 avril. Vendredi soir, Bercy a aussi promis le lancement prochain d'une autre mesure, le prêt flash carburant. Alors le prêt flash carburant, c'est pas... tu rentres sur site, tu flashes, tu décales et c'est parti. Prêt flash carburant, c'est pour les petites entreprises très consommatrices d'essence avec un prêt jusqu'à 50 000 euros avec un taux d'intérêt de 3,80%. V'là l'aide, pardon, hein, qui risque de plomber davantage les PME déjà prises à la gorge. Quelqu'un me disait en Espagne, moi je paye beaucoup moins cher. Et quelqu'un me dit à l'instant, mais pourquoi on fait pas comme l'Espagne? Pourquoi l'Espagne, c'est quoi? C'est un blocage des prix avec une réduction des taxes sur l'essence. Ils ont réduit la taxe de l'État. Eh bien, l'UMA en parle. Alors, l'Espagne, gouvernement de gauche, si je dis pas de bêtises. Alors, lisons, parce que justement, l'UMA en parle, hein, parce que l'UMA trouve que les mesures sont insuffisantes. Si le gouvernement rechigne à faire plus, c'est qu'il reste attaché à son obsession de ramener le déficit public sous la barre des 5% en 2026. En même temps, on a un vrai sujet, hein, de déficit et de charge de la dette, contre 5,1% l'an passé, avec en ligne de mire un très hypothétique 3% à l'horizon 2029. Donc, c'est la traduction en propos gouvernementaux de « il n'y a plus de sous ». Les oppositions, elles, montent au créneau, faisant valoir l'urgence sociale. L'extrême droite préconise de baisser la TVA sur le carburant, solution à fois coûteuse pour les pouvoirs publics. Hein, le RN a estimé à 12 milliards d'euros le montant de la baisse. 1 dollar pour les profits des pétroliers, qui ne seraient pas mis à contribution, parce que du coup, une baisse de la TVA pour les pétroliers ne ferait aucun effort. Or, l'humanité le souligne, ce sont bien ces derniers, les pétroliers, qui encaissent les dividendes de la crise avec la hausse des marges de raffinage. C'est pour ça que la gauche nous explique l'humanité ce matin. La gauche, entendez, le PCF, Parti communiste et LFI, et certains syndicats comme la CGT plaident pour un blocage des prix du carburant. Donc si je comprends bien... Attendez, alors l'Espagne du coup, c'est la TVA qu'ils ont baissé? Enfin, c'est l'équivalent de la TVA ou pas? Du coup, c'est la proposition du RN, ça. La TVA, alors, on va aller vérifier. Parce que vous voyez, on dit, ah, l'Espagne, il faut faire comme l'Espagne. Et puis quand je dis, mais ils ont fait quoi l'Espagne? Eh ben, on l'a pas, on va aller vérifier. Les taxes, mais quelles taxes? Comme vous me citez tous l'exemple espagnol. Bon, faut aller voir ce qu'ils font. 1,51€ le litre de SP95 d'Espagne. L'Espagne divise par 2 la TVA sur les carburants. Voilà, c'est une baisse de la TVA. Voilà. Et Dougie Jones me dit une TVA passée de 21 à 10%. Voilà, c'est ça, tu as raison. Ça coûte 5 milliards. Donc c'est bien une baisse de la TVA. Alors, donc on revient à notre article. C'est ce que propose le RN, en estimant à 12 milliards le coût de cette baisse de la TVA. Et l'UMA dit, le problème, c'est que ça diminue les recettes de l'État, mais par contre, c'est un joli cadeau aux groupes pétroliers qui, eux, ne sont pas mis à contribution. C'est pour cela que la gauche explique l'UMA, PCF et LFI, et certains syndicats comme la CGT plaident pour un blocage des prix du carburant, donc c'est autre chose. L'article L410-2 du Code de commerce autorise le gouvernement à bloquer les prix par décret, à condition, donc il y a le cadre, il y a la loi le permet, que le blocage soit limité dans le temps, c'est 6 mois max, et justifié par une situation de crise. Bon, bah là, on y est. À l'été 90, par exemple, ça avait été fait lors de la guerre du Golfe. En 2020, Jean Castex avait également plafonné le prix des masques chirurgicaux et du gel hydraulique, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Alors, il y a un constitutionnaliste intéressant qui explique que des acteurs économiques pourraient attaquer cette décision. J'ai dit hydraulique, pardon, c'est gel hydroalcoolique. Excusez-moi, pourrait attaquer cette décision devant le Conseil d'État, donc vous l'avez compris, de plafonnement, en référé suspension, en recours pour excès de pouvoir, s'il s'estime mis en difficulté par le blocage. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre à perte. C'est interdit. On voit mal Total Energy attendrir les membres du Conseil d'État en prétextant qu'un blocage des prix le mettrait sur la paille. En revanche, les gérants de stations-service qui doivent acheter les produits raffinés au prix, eux, du marché, mettent en avant une santé économique déjà chancelante avant la crise. La très inégale répartition des marges sur l'ensemble de la chaîne de valeur ne laisse pas indifférents les promoteurs d'un blocage. Il ne faut pas seulement plafonner le prix de vente aux consommateurs. Ah, c'est dans l'article, la coquille. Ah oui, c'est vrai, c'est l'humanité qui parle de gel hydraulique. Et moi, bêtement joli. Donc, il ne faut pas seulement plafonner le prix de vente aux consommateurs, mais plafonner aussi le prix de vente, en gros, des pétroliers vers les distributeurs, dit Sophie Binet de la CGT. Mais c'est possible, ça, ou pas? Elle dit, le problème, ce sont les marges des pétroliers. Face à la flambée des profits, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, le Portugal réclament la mise en place d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de l'énergie. Pas la France, qui demande à la Commission européenne une simple enquête sur les marges de raffinage pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. En tout cas, Voilà, on est allé voir l'exemple espagnol. La question est de savoir si les finances françaises de l'État français le permettent. Je vous lis. Il y a Patate Poulet qui nous dit, si tu mets une TVA normale jusqu'à 1,70€, par exemple, le litre, et que tu mets une TVA faible, genre 5,5, de 1,70€ à au-delà, cela permettrait de réduire la facture du consommateur en permettant à l'État de pas trop perdre d'argent. Je dis une bêtise. Ça me semble pas une bêtise. En ce moment, l'État augmente ses recettes puisque c'est un pourcentage de ce qu'on paye. Je me trompe, tu te trompes pas. La TVA sur le carburant augmente les recettes pour l'État. Tu as raison. À minima, on pourrait estimer que la hausse des, que l'État pourrait abandonner ce qu'ils gagnent en plus, quoi. Les gens en voiture électrique mangent des pop-corn actuellement, me dit Fleu. Bah, dans la presse, on lit beaucoup d'articles sur les concessionnaires auto qui disent le regard sur la voiture électrique est en train de changer très fort en France. Ah, c'est pas faux. À Crocaser me dit augmentation des recettes, mais sans doute une baisse de la consommation sur d'autres secteurs. Les ménages obligés de se serrer la ceinture, on va en parler dans un instant, pour faire leur plein d'essence, cet argent, ils ne vont pas le dépenser ailleurs sur des produits par ailleurs également taxés à la TVA. Pas bête. Ah, et Serbeck me dit, oui, l'État augmente la part de recettes, mais les volumes de vente diminuent. Ouais. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, dès qu'on réfléchit un petit peu, on se rend compte que rien n'est simple, quoi. D'où le calcul du RN, d'ailleurs, hein, qui dit, nous, on veut baisser la TVA et ça va coûter 12 milliards, quoi. 28% des ventes de voitures neuves sont des électriques en mars, full électrique. Joliot a raison, j'ai vu ce chiffre. C'est beaucoup.